Dimanche 21 avril 2019, pour la quatrième semaine consécutive, je suis place de la République à Paris pour donner la parole aux femmes algériennes. Le 16 février, des manifestations éclatent au nord de l'Algérie contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Une semaine plus tard, c'est tout le pays qui manifeste pour protester contre le pouvoir corrompu. Depuis, le président Bouteflika a démissionné, remplacé par Abdelkader Ben Salah, qui devient chef de l'État par intérim, et les élections présidentielles du 18 avril ont été repoussées au 4 juillet. Les manifestants réclament un processus de transition géré par des structures ad hoc. Malgré la répression, le mot d'ordre reste toujours « Silmiya », soit pacifique en arabe. Ce jour-là, j'arrive vers 15h. Des espaces de parole sont constitués ici et là. Un panneau couvert de post-it accueille des propositions et un artiste peint des fresques représentant l'Algérie. Voici donc le quatrième volet de « Les Algériennes ont de la voix ». Face à la statue de Marianne, une foule compacte écoute un discours. Je croise le regard de deux jeunes filles que je décide d'interviewer. Jeïna, 26 ans, est née en Algérie. À l'âge de 9 ans, elle s'installe avec sa famille en France pour des raisons médicales. Aujourd'hui, elle est étudiante en école de commerce.
Ma mère vient de Betna et mon père vient de Tougourt. Ça n'a jamais été dans notre intention de s'installer. Et au final, la vie a fait qu'on s'est installé en France.
Vous y retournez souvent ?
Tous les étés, on les a passés là-bas. Même en tant qu'Algérien expatrié, le sort du pays et le sort de ce qui se passe en Algérie nous concerne et nous touche. Et à notre petite échelle, il faut qu'on montre qu'on est là, montrer que la femme algérienne a du poids et a une voix et veut l'exprimer et veut se faire entendre.
Comment vous imaginez l'Algérie de demain ?
J'espère que ce sera une vraie démocratie, que le peuple aura vraiment son mot à dire, qu'il sera consulté, que ce sera une Algérie unie et reconstruite. La femme aura autant de pouvoir et autant de voix dans l'Algérie de demain, en commençant par une parité, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des postes à haute fonction, et que son point de vue en tant que femme algérienne sera pris en compte.
Est-ce que vous êtes allée voir le carré féministe ?
Non, pas encore.
D'accord. Parce que le carré féministe, eux, ils se battent notamment pour l'abrogation du code de la famille. Est-ce que vous êtes au courant ? Vous savez ce qu'il y a dans ce code ?
Alors, si je ne me trompe pas, le code de la famille, c'est que, par exemple, une femme divorce et qu'elle n'a pas le droit de se remarier sans perdre ses enfants. C'est ça ou ça n'a rien à voir ?
Selon le code de la famille, les femmes perdent la garde des enfants si elles se remarient.
C'est quelque chose qui a touché des femmes de ma famille et c'est ce que ça m'évoque principalement. J'en ai entendu parler étant très jeune et j'ai trouvé ça extrêmement injuste.
Et là, 20 ans, se présente en expliquant qu'elle est issue de la troisième génération de l'immigration algérienne. Elle étudie également dans une école de commerce.
J'ai toujours grandi entre les deux cultures, la culture française et la culture algérienne. J'ai toujours connu Bouteflika parce que je suis née à la fin des années 90 et c'est vrai que je n'ai pas connu d'autres présidents. Et là, je suis très fière de ce que font les Algériens aujourd'hui. Et quant à la place des femmes, je pense que ça devrait être l'occasion pour elles de prendre plus de pouvoir et s'impliquer plus dans la vie politique et dans la vie du pays en général.
Je leur demande ensuite si elles envisagent d'aller vivre ou travailler un jour en Algérie.
Je m'interroge actuellement professionnellement parce qu'on est en plein dedans, rien que par la recherche de stage. Et forcément, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'apprendre aussi de ce qui se fait là-bas au niveau des entreprises. Et je sais qu'il y a énormément à faire, c'est pas assez mis en lumière. Mais oui, pourquoi pas, c'est une volonté, forcément.
C'est vrai que j'aimerais participer au développement de mon pays, notamment au développement économique. Pourquoi pas ouvrir une entreprise qui ferait le lien entre la France et l'Algérie. Et actuellement, j'ai l'impression qu'il y a plein de contraintes, en fait, surtout quand on est une femme, qui font que moi, ça me freine, en fait, dans mes ambitions. Et j'en attends beaucoup aussi de ce mouvement pour qu'on puisse, dans l'avenir, participer économiquement en fait, au développement du pays.
Puis je me dirige vers le carré féministe où je rencontre Ferouja, présidente d'Appel Égalité, une association féministe franco-algérienne qui lutte principalement pour l'abrogation du code de la famille. Je lui demande d'abord s'il est compliqué d'être une Algérienne féministe.
Oui, je dirais que c'est quand même un peu compliqué parce qu'il y a énormément de confusion sur le terme de féminisme. La majorité pense que les féministes, c'est des femmes qui sont contre l'homme, qui veulent être au-dessus de l'homme. Alors que le féministe, c'est vraiment être libre, être égal à l'homme. C'est pas être contre, mais plutôt égal. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir sensibiliser beaucoup plus sur cette question et c'est le but justement de notre association. Donc c'est une association de femmes féministes qui existe depuis 1990 sur Paris. Cette association rassemble plutôt des femmes qui ont milité contre le code, l'avant-projet du code de la famille, et aussi des femmes issues d'immigration qui voulaient justement être informées et participer au mouvement des femmes algériennes. Et donc notre association, on est là pour informer, pour accompagner des femmes. Donc on les accompagne sur tout ce qui est formulaire administratif. Et aussi, on organise énormément de débats et de conférences où on sensibilise les femmes sur la question de la femme. On fait aussi des projections de films sur les violences, le harcèlement de rue. Et nous sommes solidaires aussi avec les associations de femmes françaises et au niveau international.
On insiste pour que je rencontre Feriel. Arrivée en France à l'âge de 30 ans, Feriel, 66 ans, est venue pour faire de la recherche en sociologie.
Donc vous êtes une des membres fondatrices de l'association. Vous êtes là depuis le début. Qu'est-ce qui vous a donné cette conscience politico-féministe ?
J'ai vécu toutes les péripéties de refus du code de la famille. Et puis je pense que, comme beaucoup de femmes, je suis féministe. Moi, j'ai choisi l'expression collective pour le féminisme parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à construire, la protestation, la pensée à élaborer en commun. Actuellement, on est dans un mouvement politique qui dit il faut un système juste, un état de droit. Donc nous, ce qu'on dit, c'est l'état de droit, il ne peut pas se construire sans le principe de l'égalité. C'est un principe même fondateur de l'état de droit et du fonctionnement démocratique d'une société. Donc la majorité des Algériens aujourd'hui demandent la fin d'un régime qui était oppresseur, exploitant de la population. Et donc, il ne peut pas s'accommoder d'une injustice qui concerne plus de la moitié de la population. C'est ça notre raisonnement. Et je pense que souvent on dit la mentalité des Algériens, la mentalité des Algériens. Je pense que là-dessus, il faut nuancer. Et on se rend bien compte que la mentalité des Algériens a beaucoup évolué. Il n'est qu'à voir la présence massive des femmes dans les manifestations politique tous les vendredis pour le changement de régime.
Est-ce que vous avez l'impression que la plupart des femmes sont au courant des détails du code de la famille ?
Eh bien non, malheureusement. Elles sont au courant, pas toutes, certaines oui. Tout à l'heure, je discutais avec une jeune femme de 34 ans. Elle ne savait pas du tout ce qu'il y avait dans le code de la famille. Elle m'a dit, c'est quoi ? Pourquoi vous êtes contre ? Je lui ai expliqué, elle tombait des nues. Mais bien sûr, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant, donc elle n'a jamais eu de problème. Elle ne sait pas ce qui peut lui arriver. Il y a des gens qui n'en prennent connaissance, enfin, surtout les femmes, hein, parce que ça leur tombe dessus, quand elles ont un conflit familial, etc.
تقلب ذي الغور في ثمور ومكتش يا خم يا خلان ثمس سماك يموت الصوت تمشي كثغ قوين اللان يفوك صربك انت بورث هاي تبيرن في بصلان.
Puis on me présente Hanan, 28 ans, née à Oran en Algérie et arrivée en France il y a 4 ans. Elle me précise qu'elle parle les trois langues algériennes, le berbère, l'algérien et le français. Je lui demande les raisons de sa venue en France.
Je suis en France en tant qu'étudiante, mais en réalité je suis venue pour juste fuir une certaine situation de femme que je ne supportais plus. Alors il faut savoir que la femme algérienne est doublement pénalisée. Elle est déjà pénalisée par la loi. Ensuite, elle est pénalisée par la société, parce qu'il y a de la frustration algérienne qui se met sur elle. La femme est à la fois la représentante de l'honneur, la représentante de la fierté. Elle a un fardeau immense à assumer à elle toute seule, qui rend sa vie insupportable et qui l'oblige soit à rentrer dans les lignes de poids de la tradition ou bien juste partir et quitter le pays. Donc moi, je fais partie de ces femmes qui ont choisi de partir parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution pour vivre. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition aux côtés de tout mon peuple, mais je veux quand même lui rappeler, comme lui, il est pénalisé par le système corrompu, moi je suis pénalisée et par le système corrompu et par lui-même, par la société. Donc je tiens à être égale à l'homme, je tiens à ce que je sois respectée dans la rue, que je sois respectée dans les lieux de travail, que au final je sois considérée juste comme être humain, comme algérienne, comme citoyenne et non pas comme femme et un statut social qui va me suivre toute ma vie et qui est lié à mon sexe et à ma sexualité. Je suis un peu triste parce que les défenseurs des droits de l'homme considèrent cette question comme marginale et elle n'a jamais le temps d'exister, c'est pas le moment. Je suis un peu triste par rapport à la réaction des droits de l'hommiste, franchement, parce que pour moi la l'égalité est indissociable des droits de l'homme. Quand on voit qu'un militant de droits de l'homme en Algérie dit que non, on est un pays musulman, que c'est pas le moment de parler d'égalité des sexes, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu te dis, alors, militant de droits de l'homme, va militer pour l'islam, autre chose, alors. On ne peut pas militer pour les droits de l'homme et ne pas militer pour l'égalité des sexes.
Je demande ensuite à Hennen si elle pense que l'Algérie est prête à accepter ses revendications.
Moi, j'ai marché à Alger avec ma pancarte, personne ne m'a rien dit. Moi, je considère que l'Algérien est assez mature et qu'il est prêt à comprendre ce que ça veut dire l'égalité, ce que ça veut dire le féminisme, ce que ça veut dire les femmes dans sa société. Je refuse l'infantilisation de l'Algérien. Comme il est prêt à comprendre la question identitaire, prêt à comprendre la démocratie, prêt à comprendre plein de notions politiques, il est prêt à comprendre que je dois être égale à l'homme.
Hélène envisage-t-elle un jour de retourner vivre en Algérie?
Bien sûr, c'est chez moi là-bas, bien sûr que je redéménagerai là-bas. Je n'attends que ça, j'ai envie de vivre chez moi, hein, en liberté. Il ne faut pas oublier que la société aussi, qu'on est harcelé dans les rues, qu'on vit mal, qu'à 17 ans on doit être à la maison, qu'il n'y a pas de vie nocturne pour une femme, qu'il y a plein de problèmes et il doit lancer le débat. C'est maintenant qu'on doit parler de la situation des femmes. Et oui, je déménagerai chez moi une fois, je vivrai bien. Qu'est-ce que je vais faire dans un pays étranger? Je me bats pour une Algérie plurielle, une Algérie où tous ses enfants puissent vivre. Donc moi, je veux avoir un droit que même si ma compatriote s'en fout, elle ne le veut pas forcément, moi je le veux. Donc moi, je me bats pour moi et pour les femmes comme moi. Je ne suis pas forcément contre les islamistes ou un homme qui rêve, ou un musulman, quoi. Je veux seulement vivre avec ce musulman et cet islamiste en paix.
Plus tard, je croise une dame qui manifeste avec un grand panneau sur lequel est inscrit ses revendications. Malika, 60 ans, d'origine kabyle, est arrivée en France à l'âge de 2 ans.
Mes grands-parents étaient en France. Mon grand-père maternel était chauffeur de taxi à Paris. Mon autre grand-père est venu aussi dans les années 50. Et mon père est venu rejoindre son père, il avait 14 ans. Ma mère est arrivée dans les années 60, elle avait 20 ans. Voilà. Et donc voilà, toute ma vie, moi j'ai baigné dans le milieu complètement kabyle. Les accords qu'il y avait avec l'Algérie faisaient que, comme les villages en Algérie, il n'y avait pas de travail. Je pense que ceux qui étaient plus susceptibles de venir immigrer, ça devait être des kabyles. Après, bon, il y en a qui sont venus, qui sont restés, il y en a qui ont ramené leur famille et d'autres pas. Et pour beaucoup, soit ils étaient chauffeurs de taxi, d'ailleurs on retrouve beaucoup de kabyles chauffeurs de taxi, ou alors ils tenaient des commerces, essentiellement des cafés, hôtels, restaurants et des restaurants. Voilà, donc toute ma vie, j'ai baigné dans ce milieu-là, entre les chauffeurs de taxi et les restaurateurs kabyles, dans le 11e, le 20e.
Petite histoire des cafés-restaurants kabyles. Dans les années 50, ce sont les Auvergnats qui ont le quasi-monopole des cafés et des restaurants de la capitale. Ils commencent petit à petit à céder des cafés de l'Est parisien aux kabyles. Seules les personnes de nationalité française peuvent disposer de la licence 4, permettant de vendre de l'alcool à consommer sur place. À l'indépendance, les accords d'Évian prévoient que les ressortissants algériens soient exemptés de la condition de nationalité. Une aubaine pour les Kabyles qui en profitent pour acheter de plus en plus de café aux Auvergnats.
Et donc, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ?
Eh ben, ce que je fais ici, c'est soutenir les Algériens, voilà, notamment les berbérophones et les femmes. Donc moi, je demande aussi la démocratie, mais la démocratie, il faut qu'elle soit avec toutes les composantes d'Algérie, c'est-à-dire surtout les berbères qui sont mis à l'écart depuis toujours.
Quelle est la propension de berbères en Algérie ?
Je pense, moi, personnellement, que tous les Algériens ont des origines berbères. Qu'ils soient kabyles, chaouis, touaregs, mozabites et j'en passe. Je pense que 90% des Algériens sont d'origine berbère. Comme je vous disais, ma mère est arrivée à l'âge de 20 ans en France. Et toute sa vie durant, je l'ai entendue à chaque fois qu'elle se faisait traiter de sale arabe. Parce que pendant les 30 glorieuses, malheureusement, le racisme anti-maghrébin, anti-algérien faisait fureur. C'était une mode. Et du coup, ma mère, à chaque fois qu'elle se faisait traiter de sale arabe, elle répondait « Je ne suis pas arabe, je suis kabyle, je suis la fille des montagnes. » Et « L'est mort, il est si douleur. » Voilà.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a écrit sur votre pancarte ?
De dire un petit peu que j'en avais un petit peu marre d'être en France traitée d'arabe. Voilà, d'être considérée comme une arabe et une musulmane. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans des choses qui ne sont pas les nôtres. En tout cas, personnellement, je ne me sens ni arabe ni musulmane. Donc on est enfermé, on est condamné à être arabe et musulmane, donc je dis non. Je dis aussi qu'il faut...
Est-ce que c'est mal d'être arabe et musulman ?
Non, c'est pas mal. C'est que quand on n'est pas quelque chose, c'est pas la... on aimerait bien être nous. Donc les Berbères ont le droit de citer. Ce sont les premiers habitants du Maghreb. Donc ils ont le droit à la parole, ils ont le droit à l'existence, ils ont le droit à la reconnaissance. Et c'est ça que j'écris sur mes panneaux. Et je dis aussi qu'en France, l'Institut du monde arabe, qui a été créé dans les années 80, et l'Institut des cultures d'islam, nous fait beaucoup de tort. Parce qu'on passe notre temps à revendiquer notre identité, et en fait, ils amalgament tout ça. C'est-à-dire que dans l'IMA et dans l'ICI, ils mettent tout. C'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Somalie, Djibouti, les Comores, etc. Je ne vois pas ce que j'ai à voir avec une Comorienne. Je n'ai rien contre les Comoriens, je n'ai rien contre les Djiboutiens, mais j'aimerais bien qu'on m'adresse la parole en tant que femme kabyle, point.
Vous êtes pour l'indépendance ou vous êtes pour une certaine forme d'autonomie ?
Bah, de toute façon, l'Algérie, elle est berbère à l'origine. Donc on va demander l'autonomie de quoi ? C'est de toute l'Algérie, alors.
L'intervention de Malika est symptomatique d'un malaise éprouvé par une partie de la population algérienne. En effet, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, dans une démarche de réappropriation identitaire, Ahmed Ben Bella, le premier président de la République, définit l'identité algérienne. Unicité du peuple, du territoire, de la langue et de la religion. L'arabe et l'islam seraient ainsi les pierres angulaires de cette identité. La pluralité est ainsi niée, et la diversité linguistique considérée comme source de division et menace pour une unité nationale. Toute référence à la berbérité est dénoncée comme faisant le jeu de l'étranger et du néocolonialisme.
ثموسني في وين النظن ثعرب ثور سنة الجيل عز ذي محفاس دق ولا غن زرناك السفرية تصاص من تبيبين قرافن أزرف يا رزاث البطل في ذي تولن سيدفع ثاويني تصطصع في الفحل وانتو في ذي سيما ذي سيا حصل فولا صل ثو غلار كل ذا ماذا هرومين غارت في الدل عندك نثق
Pour finir, je pose la même question à chacune des personnes rencontrées.
Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial en France ?
C'est un jour spécial en France. Ah oui, c'est Pâques, oui.
Bonne réponse, c'est pas la seule. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour important en France ?
Pourquoi ?
Le 21 avril. C'est quoi ? Vous savez ce qu'on célèbre aujourd'hui en France ?
Aujourd'hui, là, aujourd'hui même ? Bah Pâques ? Non, c'est pas ça ?
Bon, cette question ne marche pas vraiment. Je vais tenter d'être plus spécifique.
Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en France, c'est un jour important pour les femmes ?
Non, je suis désolée.
Vous savez, vous ?
Non.
Vous savez ?
Ah non.
On n'a pas voté. C'est le droit de vote de la femme, oui.
Ah oui, bah tant mieux pour les femmes. J'espère que... Bon, nous, on a eu le droit dès l'indépendance, donc ça ne représente pas vraiment grand-chose pour moi.
Le 21 avril, on célèbre le droit de vote accordé aux femmes françaises.
Ah, oui, absolument, absolument. Oui, absolument. Qui a été justement accordé il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était dans les années 50, je pense. Hein.
En 44.
Voilà, en 44, oui. Donc voilà. Et c'est grâce aux féministes que les femmes peuvent voter, qu'elles peuvent travailler sans l'autorisation du mari.
Les libertés individuelles sont au cœur des revendications des femmes algériennes. De semaine en semaine, il me semble que ces voix sont de plus en plus fortes et audibles. La suite dans un prochain épisode. C'était « Les Algériens ont de la voix ».
مازلنا ثوار مازلنا 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 ثوار